Voilà, je vous demande de prendre un passage de l'Évangile de Matthieu, chapitre 2. Évangile de Matthieu, chapitre 2. Nous allons voir un passage qui se parle de Noël, hein, et c'est uniquement... l'évangéliste Matthieu, il parle, et cette partie de l'histoire, ce n'est pas raconté par des autres évangélistes. On ne trouve pas ni dans Marc ou Luc ou Jean. Et on va lire le premier 12 premiers versets. Matthieu chapitre 2, on va lire le 12 premier verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et ils s'informèrent auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vu en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus de lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrir en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai intitulé le message « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» C'est une question qu'on devrait, nous aussi, pendant cette période de Noël, hein, quand tout le monde fête, nous devrions aussi poser cette question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et souvent, pendant ces fêtes hein, de fin de l'année, pendant la fête de Noël, on dit fête de fin de l'année, on n'ose pas dire Noël. Et en anglais, on met un X, on dit Xmas. Et pourquoi cacher Christ? Mais Satan, constamment, il est en train de cacher Christ de Noël. On devrait reconnaître ce fait. Il fait tout pour cacher Christ, pour enlever Christ de Noël. Soit c'est pas des choses brillantes, mais c'est très joli. Mais on voit des choses qui peuvent nous détourner de le sens de Noël. Pourquoi nous célébrons Noël? Noël sans Christ, ce n'est pas Noël. Et on voit ici que souvent, avec l'histoire de Noël, il y a beaucoup de légendes. Il y a beaucoup de légendes qui s'ajoutaient, les légendes de tradition qui s'ajoutaient dans le temps. Et même un chant en anglais, nous trois nous les trois rois mages, nous voyons, nous allons voir Jésus, le bébé. C'est, je sais que le chant, il existe, chant de Noël existe en français aussi, ce n'est pas la même parole, mais se disent les trois mages. Mais où est-ce qu'on a trouvé que c'était trois? C'est nulle part marqué dans la Bible qu'il y avait trois mages, n'est-ce pas? Et oui, il y avait trois présents, et l'or, l'encens et myrrhe. Mais où c'est marqué, il y a trois rois, trois mages. Et donc, c'est comme le fruit qu'ils ne devraient pas manger, Adam et Ève, hein, Dieu l'a interdit, le fruit interdit, c'est devenu la pomme. Okay? Tout le monde croit que c'était la pomme. Et même pour les hommes, on appelle la pomme d'Adam. Et donc, dans le temps, on a ajouté les choses, les traditions, des fables. On commence à croire que c'est la parole. Donc, on devrait faire attention quand nous lisons la parole de Dieu. Et on devrait voir ce qui est exactement ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à la naissance de Christ? Matthieu, il enregistre dans son épître. Hein, il faut, quand on lit les évangiles, on devrait voir à qui cet évangile est adressé. Et c'est par qui est écrit cet évangile. C'est avec ça qu'on peut comprendre mieux pourquoi c'est écrit de cette façon. Et Matthieu, pourquoi il devrait enregistrer dans son épître une grande partie de cette histoire. Et pourquoi pas les autres? Matthieu, c'est un juif. Hein? Matthieu, c'est un juif. Donc, c'est l'évangile de Matthieu s'adresse aux juifs, puisqu'il peut savoir. Parce que la question que les mages sont posées, c'est où est le roi des juifs qui vient de naître? Où est le roi des juifs qui vient de naître? Mais quand Jésus-Christ est né, il est né dans quelle ville? Ce n'est pas Jérusalem, hein? Parce que parfois on peut répondre comme ça aussi. Donc Jésus est né à Bethléem, mais complètement inaperçu. Chacun faisait ce qu'il voulait faire, et chacun occupait d'autres choses. Il était complètement inaperçu. Et seulement, les bergers sont venus pour l'adorer, pour voir et adorer l'enfant. Et Matthieu, il enregistre ce fait que les mages sont venus de l'Orient. On va voir un peu de ce passage. On va voir un peu plus près. Quand on parle de ces mages qui sont venus de... Donc, on sait que peut-être c'est trois ou plus, on ne sait pas combien. Donc, on ne devrait pas fixer qu'il y avait trois mages. Les enfants, ils peuvent chanter, mais nous, on devrait poser les questions, mais peut-être pas trois. Donc, qui sont des mages qui sont venus de l'Orient? Et certains pensent qu'ils sont venus de la Perse, et certains pensent que ce sont des astrologues qui sont venus de Babylone. Et le nombre, on n'est pas sûr combien il était, mais on savait, nous savons qu'ils ont amené trois types de présents. Hein, les cadeaux qu'ils sont apportés, c'est l'or, l'encens et le myrrhe. Ok. Et après, on voit l'étoile ici. Hein, il était guidé par l'étoile. Il était guidé par l'étoile. Donc, il y a beaucoup de choses qui étaient dites sur l'étoile. C'est une comète ou c'est une étoile. C'est une planète. Beaucoup de choses, mais c'est ce qu'on sait que c'est extraordinaire, ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, ils ont suivi cette étoile de l'Orient. Donc, certains pensent que c'est Jupiter, parce que dans cette époque, ils ont associé Jupiter avec des rois, de naissance des rois. Donc, on ne peut pas dire exactement c'était quoi cette étoile, parce que certainement c'est une étoile qui était très rare, mais il était là. Les mages, ils ont vu l'étoile, Il dit très clairement, on a vu son étoile, hein, je pense que c'est comme ça. Quel verset 2, hein. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, ils ont certainement vu l'étoile. Donc, savoir que ils sont une révélation de la part de Dieu de suivre cette étoile. L'étoile, elle était là, mais moi, je pense que on peut dire que c'est une lumière divine qui a guidé ces mages de l'Orient. C'est une lumière divine, hein, qui a guidé ces mages. Certains pensent que les noms de ces trois mages, c'est Melchior, Balthazar et Caspar. Et souvent, on voit, si vous avez vu des crèches qui étaient faites, on peut voir il y a des bergers avec leurs animaux, avec leurs bêtes, et aussi les mages avec leurs chameaux et tout ça, hein, dans le même temps. Est-ce que c'est passé au même moment? Est-ce que les mages sont arrivés au même moment comme les bergers? Non? Les bergers sont venus la nuit même. Ils étaient avertis la nuit même. Ils sont venus voir l'enfant tout de suite. Mais les mages, ils sont venus beaucoup plus tard. Ils sont venus beaucoup plus tard. Je ne sais pas combien de temps, mais ça peut être même 2 ans. Ils ont pris le temps pour venir. Parce que le mot pour l'enfant dans le texte original, c'est apparemment le juif, il avait 8 phases d'un enfant. Hein, 8 phases d'un enfant. Donc, c'est signifié pas comme un bébé, pas comme un nourrisson, mais un enfant, un jeune enfant. Hein, et un jeune enfant. Donc, on devrait faire attention qu'on ne devrait pas penser que les mages, ils étaient au même moment comme les bergers. Et ils sont venus voir l'enfant où? On va casser certains mythes qu'on a pu garder. Hein? Je pense que depuis notre enfance, parfois, on a gardé certaines choses. Ils sont venus voir l'enfant. Ils sont finalement arrivés à l'étable? Non. Ils sont venus adorer l'enfant dans une maison. Il était dans une maison. Hein? Certainement, Joseph et Marie sont, après la naissance de Jésus, certainement, Joseph, il a trouvé une place assez confortable pour l'enfant et la mère, et il a mis dans une maison. Et quand les mages sont venus, ils étaient dans une maison. Même l'Église catholique, ils pensent que les mages sont des saints. Hein, ils sont devenus les saints, l'Église catholique. Donc, les mages, ce qu'on sait, qu'ils sont venus adorer l'enfant. Ils sont venus adorer l'enfant. Ce qui est important, Jésus, il est digne de l'adoration. Il est digne d'adoration. Il est digne de notre adoration. Et il est Emmanuel, Dieu avec nous. On devrait voir des autres choses avec cette histoire. Qu'est-ce que les mages ont fait pendant la naissance de Jésus? On devrait faire attention quand nous lisons la Bible. On devrait faire très attention, poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi c'est écrit comme ça? On devrait vraiment poser les questions. Vous savez, c'est dans le livre d'Actes, quand on parle de Juifs, de Bérée, hein, c'est dit une chose. Actes 17, 10 et 11. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, quand l'histoire de Noël est racontée, on devrait demander avec la parole, est-ce que c'est exact? Hein? Est-ce que nous sommes en train d'aveuglement suivre les légendes ou est-ce que c'est vraiment des choses comme la parole nous révèle, comme la parole nous enseigne? Une autre chose, c'est ce qu'on peut voir avec les mages, mais parfois on pense que l'adorateur de Dieu, c'est seulement dans un lieu. Comme la femme samaritaine, elle avait sa propre notion. Hein? Vous adorez Dieu dans sa montagne, nous adorons Dieu dans l'autre montagne. Hein? Parfois on peut penser que à certains pays, c'est complètement païen, il n'y a pas d'adorateur de Dieu, mais parfois on peut être ignorant que Dieu a toujours gardé ses adorateurs dans les endroits où nous ne soupçonnons pas du tout parfois. Et ces mages, ils ne sont pas venus de Jérusalem, mais à Jérusalem, il y a des gens qui sont pensés qu'ils sont le vrai adorateur de Dieu. Mais ils n'ont pas venu de Jérusalem, ils sont venus de très loin, d'Orient. Bon, je pense que c'est peut-être la Mésopotamie, Iran d'aujourd'hui, ou Irak, mais en tout cas de cet endroit, ils sont venus. Et on peut même deviner par le présent qu'ils amènent, ça peut nous indiquer le lieu où, d'où ils viennent. Donc le Seigneur, il a toujours ses adorateurs dans les coins du monde qu'on ne peut pas soupçonner, hein. On ne pense pas. Et parfois, on ne connaît pas grand-chose sur ces mages, comme nous connaissons très peu sur Melchizedek, même sur Job. Et on ne devrait pas penser que les adorateurs de Dieu, c'est seulement les gens qui sont dans nos répertoires. Ce que nous connaissons, ce que nous reconnaissons. Et il y a beaucoup de chrétiens dans les autres pays qu'on ne pense qu'il n'y a pas de chrétiens. Dieu a toujours ses serviteurs dans les pays qu'on ne pense pas. 2 Timothée 2,19 dit « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne d'iniquité. » Peut-être nous ne connaissons pas ces personnes, mais on peut toujours prier pour ces personnes inconnues. Hein, ils sont connus par le Seigneur. Un autre point, et ce n'est pas toujours les gens qui sont de privilèges spirituels qui cherchent Dieu, qui honorent Dieu. Imaginez à cette époque, Jérusalem, la capitale de pays des Juifs, hein, le peuple juif, il y avait beaucoup de personnes et même des scribes et les principaux sacrificateurs, ils savaient que le Messie devrait être né à Bethléem. Mais personne n'a cherché le Messie. Il est né presque inconnu. Hein? De nos jours, on dit que né sur X, hein, les enfants qui ne connaissent pas le nom de père, on met né sous X. Et Jésus, il était presque né inconnu. Et personne ne reconnaissait sa naissance. Il était inconnu dans la ville quand il est né. Personne n'a accepté la naissance de Christ. Quand Jésus est né, personne n'a reconnu et personne n'a accepté. La parole nous dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. En Jean 1:11, elle est venue, la lumière, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. C'est peut-être la même chose même aujourd'hui. On peut fêter Noël, on peut parler l'histoire de Noël, on peut chanter, mais est-ce que Jésus il est reconnu comme le Messie? Est-ce que Jésus il est reconnu comme le Dieu sauveur? Et on peut penser que souvent dans le pays orient, comme l'Inde ou notre pays peut-être, hein, ils pensent que toute l'Europe c'est chrétien. Comme nous, nous pouvons penser que toute l'Inde c'est les hindous. Souvent les gens ils me posent la question, mais tu es un hindou? Moi je dis non, je suis chrétien, mais je suis indien, je suis de l'Inde. Donc on peut avoir des choses préconçues et on pense que, on présume que toute l'Europe c'est chrétien. Hein, mais certes, on avait cette lumière ici dans ce continent européen. On a beaucoup d'accès, on a l'accès pour la Bible, un libre accès. Mais Christ est aussi autant étranger comme il est pour des autres peuples. Mais on est privilégié, mais on est loin. Comme ces scribes et des sacrificateurs, ils savaient, mais pourtant, ils n'ont pas cherché. Ils n'ont pas cherché. Hein? Ils n'ont pas venu à Bethléem. Et quelle est notre position aujourd'hui? Quelle est la position de notre société aujourd'hui? La France, elle est connue par des autres pays. Hein? La France est connue comme un pays chrétien. Hein? Tout le monde, je sais, quand les gens, les Français, ils remplissent pour le visa. Et quand ils posent les questions sur la religion, tout le monde met chrétien. Hein? Certains mettent athée, mais 90% ils mettent chrétien. Mais des chrétiens qui ne connaissent pas Christ. Oui, des religions, ils sont chrétiens, mais des chrétiens qui ne connaissent pas Christ. C'est triste, n'est-ce pas? Donc, on peut avoir l'accès aux connaissances. On peut avoir l'accès pour la connaissance. Les Juifs étaient remplis de connaissances, n'est-ce pas? De la parole, ils connaissaient la parole. Les Juifs, les pharisiens, ils baladaient avec la parole écrite et attachée sur leur pan de robe. Hein? Ils baladaient ainsi avec une fierté. Mais ils ne cherchaient pas Christ. Ils ne cherchaient pas Christ. Hein? Donc, ce n'est pas uniquement la connaissance. On peut être à l'église. On peut avoir la connaissance de toutes ces choses. On peut connaître l'histoire de toute la nativité, hein, la naissance de Christ. Hein. On peut connaître tout ça. Mais est-ce qu'on connaît Christ, le Sauveur? Pierre, dans son deuxième épître, il dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » On peut avoir la connaissance. Mais on devrait avoir la grâce de Dieu pour connaître Christ. On peut être à Jérusalem, on peut être à Bethléem même, mais loin de cette connaissance de Christ, loin de connaître Christ. Et quand on pense à ces des mages, ce sont des sages de l'époque qui avaient une soif pour connaître la vérité. Et ils devraient venir de très loin. Donc, ils devraient, pour venir vers Christ, pour faire ce voyage, c'était coûteux pour eux. Hein? Et si on veut venir connaître Christ, mais c'est coûteux. Et ils sont dépensés leur argent. Hein? Il faut beaucoup d'argent pour faire cette distance. Et ils disent que ça peut être 1800 kilomètres, hein, la distance à l'époque. Et surtout sur le dos de chameau, ce n'est pas le TGV ni l'avion. Hein. Donc 1800 kilomètres à l'époque, c'est quand même très loin. Donc beaucoup d'argent et beaucoup de temps aussi. Et ils devraient prendre beaucoup de risques aussi. N'est-ce pas? Donc, pour adorer le Seigneur, ils ont pris le risque, ils ont dépensé leur argent, ils ont dépensé leur temps. Mais parfois, nous, combien de kilomètres nous habitons autour de l'Église? 30 kilomètres? Et certains, ils habitent plus loin, c'est 50-60 kilomètres. Mais nous, nous ne sommes pas prêts à dépenser notre temps. On ne veut pas venir un quart d'heure avant, 15 minutes avant, on ne veut pas venir. mais on est prêt à attendre pour le train. Moi, j'attends tous les jours le train, je rate le train, mais... Oui, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais je ne peux rien faire sauf attendre. Mais pour adorer le Seigneur, on n'est pas prêt à venir 15 minutes avant. Mais on vise à être à 10 heures. Hein, et souvent, on est à 10 heures et quart. Ça, c'est le fait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à dépenser de notre vie pour adorer le Seigneur? Ça va coûter quelque chose. Ce n'est pas gratuit. Ça va nous coûter. Mais qu'est-ce que nous sommes prêts à faire? On va leur persévérance. Ils ont entrepris ce voyage. Ils ont entrepris ce voyage. Et... quand les souverains sacrificateurs et le scribe, ils ne croyaient pas, mais ils connaissaient la parole, ils connaissaient la prophétie, mais ils ne croyaient pas, mais ils ont cru, ils sont venus pour voir Jésus. Et finalement, quand ils viennent voir Jésus, il était sur le genou de sa maman, Marie, et ils voient l'enfant, ils adorent l'enfant. Ils ont reconnu le roi dans l'enfant. Et imaginons, c'est peu probable qu'il était des rois. Souvent, on voit dans l'image avec la couronne et tout ça, on dit que c'est les trois rois. Hein. Non, ils sont des mages, mais quand même, ils sont venus, ils ont reconnu le roi. Et certainement, ils connaissaient la prophétie. Et il n'y avait pas de miracle, mais aujourd'hui, l'adoration, c'est souvent jumelé avec les miracles. Quand on voit le miracle, on trouve l'adoration. Mais il n'y avait pas de miracle ici. Ils viennent, ils voient l'enfant, ils tombent, ils prosternent devant lui, devant l'enfant, pas devant Marie, on devrait noter ça aussi, hein. Il procède devant l'enfant et il adore l'enfant. Et on voit leur foi. On voit leur foi. Et plus tard dans l'évangile de Jean, Jésus dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et ceux qui ont cru. » Jean 20, 29. Et donc, ici, on voit, si on peut commencer avec le premier verset, « Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Donc, ils n'ont pas eu peur pour déclarer à leur mission. Il vient de notre pays, il vient ici dans le pays des Juifs, il déclare ouvertement, ils disent que certainement ils ont entendu la réputation de ce roi Hérode, hein, mais le verset 3, le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Mais le roi Hérode, les historiens ou théologiens, ils disent qu'il était déjà vieux, mais c'est une personne terrible. Il était très, très, très méchant. Il a tué sa propre mère, il a tué son propre fils de peur qu'il va reprendre le pouvoir. Donc, il était un homme très méchant. Et donc, le verset 3 dit que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Mais il était troublé quand il a entendu que un roi qui est né. Et toute Jérusalem avec lui. Pourquoi Jérusalem était troublée aussi? Parce que quand le roi est troublé, certainement, il peut attendre des choses terribles sur la ville. Parce qu'il était tellement méchant, il peut gratuitement tuer les gens, il peut massacrer les gens quand il est troublé. Mais on peut imaginer quand le pays la gouvernance est dans la main d'un fou, quelle catastrophe il peut faire. Hein, on a vu dans le passé, dans l'histoire, quelle catastrophe c'est quand le pouvoir il est dans la main d'un un homme méchant ou fou. Et donc, il assembla tous les principaux sacrificateurs, le roi Hérode, il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Donc, il y a deux questions. La première question, c'est le mage qui pose la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Une bonne question. Et la deuxième question, dans le verset 4, la deuxième partie du verset 4, où devait naître le Christ? C'est Hérode qui pose la question. Hein? Mais, et le verset 5, ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes pas le moindre entre la principale ville de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Se trouve en Michée chapitre 5, le premier deux versets. C'était écrit, mais... Dans la parole de Dieu, quand nous lisons l'histoire de la naissance de Christ, tout est accompli, comme c'était dit dans la parole, par les prophètes. Et exactement comme il était dit par les prophètes. Et le verset 7, « Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. » Voilà, il y a une autre chose que nous devrions remarquer. Il demande depuis combien de temps l'étoile brillait. Mais je pense que dans les autres langues, c'est écrit, l'étoile commence à briller. Hein? Donc, pour connaître l'âge de l'enfant, après, on peut connaître quand Hérode, il ordonna le massacre de tous les enfants de moins de 2 ans. Donc, il savait que c'était... On peut dire entre 1 an et demi et 2 ans. Donc, il savait que ça fait autant de temps que Jésus est né. Hein? Donc, combien de temps l'étoile brillait? Et puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Hein? » Un renard, hein? Il dit que je vais adorer ce roi, mais finalement, pourquoi il cherche à savoir où est les mages? Il pose la question pour connaître où est né le roi de Juif pour venir adorer. Mais lui, il cherche pour le tuer. Hein? On peut poser des questions, mais l'intention, ce n'est pas la même. Mais je trouvais ça étrange ici, quand Hérode, il voulait tuer Jésus. Hérode, il voulait tuer, mais ce n'est pas Hérode. Satan, il voulait détruire Jésus, même avant sa naissance. Si vous lisez dans l'histoire de la Bible, on voit qu'il voulait éviter la naissance de Christ. Hein? Il a, partout dans l'histoire, il a voulu détruire Christ. Mais après sa naissance, il voulait encore détruire. Donc Hérode, c'est un outil dans la main de Satan. Mais Hérode, il ne savait pas qu'il voulait détruire son propre sauveur. N'est-ce pas? Jésus-Christ, il est né aussi pour sauver Hérode. Mais Hérode est en train de chercher de détruire son propre sauveur. Je pense que c'est bien le cas aujourd'hui, même dans le monde. Le Sauveur, il est né pour nous sauver. Mais combien d'hommes parmi nous, ils veulent détruire leur propre salut, leur propre Sauveur. Mais on ne peut pas le reconnaître, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Comme Hérode, combien d'hommes ils sont cherchés à détruire leur propre salut, leur propre Sauveur. Et le verset 9, après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et une chose étrange, pourquoi je peux dire que c'est miraculeux, Je ne pense pas que tout le monde dans l'Orient a vu cette étoile. L'étoile était visible uniquement pour les mages. Elle n'était pas visible pour tout le monde. Hein? Et même à Bethléem, je ne pense pas que tout le monde a vu cette étoile. Ce n'est pas écrit, la parole ne dit pas. L'étoile, elle guidait, elle conduisait ses mages vers la maison où Jésus se trouvait. Et quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Il entra dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent l'or, l'encens et la myrrhe. L'or, c'est un métal royal, n'est-ce pas? C'est associé souvent avec la royauté, avec les rois. L'or, c'est un métal, c'est le métal le plus précieux qui est réservé pour les rois. Donc, une reconnaissance, la royauté de Messie. Hein, il offre l'or. Et deuxièmement, c'est l'encens. Et encens, c'est certains comparent avec le sacrifice de Jésus-Christ. Hein, sacrifice de bonne odeur. Hein, on peut comparer avec le sacrifice de Christ. Donc, parfois, dans l'adoration, peut-être, on ne connaît pas tout ce que ça peut impliquer dans l'adoration. Mais quand on adore le Seigneur, il y a un sens. Et troisièmement, c'est le myrrhe. Ils disent que myrrhe, c'est une résine, non, qui coule de l'arbre, un arbre, une sorte d'épice très parfumée. Ils l'utilisent pour embaumer le corps. Ils l'utilisent pour embaumer le corps. Donc ici, on voit le sacrifice de Jésus et son mort. Et donc, amener le myrrhe pour un enfant, pour un petit enfant, il n'y a pas de sens. Mais il y avait le sens dans tout ce qu'ils ont fait. Ils ont reconnu le Messie. Le Messie, ce n'est pas seulement le petit bébé qui est dans la crèche. Le Messie, ce n'est pas seulement Jésus qui était un gentil homme qui promenait en Galilée. Le Messie, c'est aussi celui qui a donné sa vie sur la croix. Donc, les mages, par leur oration, ils déclarent ces vérités. Et verset 12, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc, ils étaient conduits par Dieu dans tout leur chemin. Quand ils sont venus jusqu'à Bethléem et jusqu'au retour, ils étaient conduits. Après, on sait ce qui s'est passé. Et Hérode s'est mis en colère parce que la parole dit qu'il a senti moqué par les mages. Hérode, il a senti moqué par les mages. Donc, et que cette foi et la diligence de ces mages nous inspirent pour notre service à Dieu. Et peut-être le monde autour de nous, ça peut être, peut-être il ne reconnaît pas la divinité de Christ, il ne reconnaît pas le Sauveur, et il ne peut pas croire en Jésus-Christ. Et nous ne devrions pas avoir honte de confesser Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur, et comme le Messie. Donc c'est une occasion, quand nous fêtons Noël, nous devrions dire par nos paroles et nos actes, pourquoi nous fêtons Noël? Ce n'est pas une fête, mais nous fêtons, nous célébrons Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous déclarons sa vie, ses miracles, son résurrection de mort et son enseignement et sa mort sur la croix. Et est-ce que nous sommes prêts à chercher ce Messie qui est né il y a plus que 2000 ans? Et est-ce que nous sommes prêts à le servir comme le roi qui est né un jour? Il est le véritable roi. Dans le monde, il y a beaucoup de rois, mais il est le roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Que Dieu soit loué. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous Nous te remercions, Père, pour ce plus précieux cadeau que tu nous as donné, ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Seigneur, qui est très précise. Seigneur, ces choses nous émerveillent. Comment méticuleusement tu as planifié pour envoyer ton Fils. Seigneur, comment tu as gardé ton Fils, Seigneur, de perdition pour lui offrir comme un sacrifice à notre égard sur la croix. Seigneur, aide-nous à apprendre ce que ce passage nous demande de faire. Seigneur, nous voulons voir, nous voyons l'humilité de Jésus-Christ, comment il est né comme un petit enfant, dans l'état le plus humble à Bethléem, la ville la plus inattendue par le monde de ce jour. Mais Seigneur, aide-nous à chercher Christ dans tout ce que nous faisons. Seigneur, aide-nous à déclarer Christ notre Sauveur dans tout ce que nous faisons, dans nos paroles et dans nos actes. Seigneur, que ton nom soit loué. Seigneur, prends-nous et utilise-nous pour ta gloire. Que ton nom soit glorifié dans toutes ces choses. Nous prions tout cela dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, et pour ta seule gloire. Amen.